Radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 2h.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
L'île d'Oléron, c'est la plus grande île française après la Corse. Elle se trouve en Charente-Maritime. Oléron, c'est aussi ses plages, ses huîtres et les sports d'eau pour les passionnés de glisse. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir les trésors naturels de l'île d'Oléron. Il y a des espèces animales qui ne nichent qu'ici. On trouve aussi des plantes protégées, des marais salants et des côtes sauvages. On est à 50 minutes de La Rochelle en bateau et je me sens totalement dépaysée. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi l'or blanc d'Oléron a permis de nourrir l'Europe entière depuis le Moyen-Âge. Je m'appelle Anne Delanoë. Je suis animatrice à Ici La Rochelle et j'adore l'île d'Oléron parce qu'elle m'inspire le calme et je la trouve authentique. On croise des locaux qui sont installés depuis des générations, des pêcheurs et un grand nombre d'ornithologues. Quand je suis sur l'île, j'ai un peu l'impression d'être seule au monde et je profite de sa lumière très particulière. Ici, Oléron est surnommée la Lumineuse parce que selon la légende, l'île serait ensoleillée toute l'année. Bienvenue dans Partir, Oléron et ses trésors de la nature. Notre point de départ, c'est Boyarville, au nord-est de l'île. C'est un petit port de pêche typique. Quand on arrive par bateau, on rentre par le chenal de Boyarville avec ses bateaux de toutes les couleurs. Et si on avance encore un peu, il y a des restaurants au bord de l'eau. Boyarville, ça vous fait sûrement penser au Fort Boyard. Et c'est normal. Depuis ce port, on voit le fort au loin. Et pour moi, c'est ici qu'on a la plus belle vue sur cet édifice iconique. Avant d'être le théâtre d'un jeu télé célèbre, Fort Boyard, c'était d'abord une enceinte fortifiée, puis une prison. Pour venir sur l'île, vous pouvez évidemment prendre la voiture. On est à 1h20 depuis La Rochelle. Moi, je vous invite vraiment à venir en bateau. Déjà, c'est plus rapide, 50 minutes de traversée seulement depuis La Rochelle. Et surtout, on passe juste à côté du Fort Boyard. C'est en prenant le bateau que vous en profiterez le plus. Je vous conseille de prendre votre billet de bateau à l'avance. Vous verrez, les horaires sont établis en fonction des marées, donc ça change souvent. Le billet aller-retour La Rochelle-Oléron est à 16,90€ hors juillet-août. On avance encore un peu et on se dirige vers Fort Royer. C'est un site naturel et ostréicole au bord de l'eau qui existe depuis 1920. Et quand on arrive, on est tout de suite saisi par une quarantaine de cabanes colorées qui se suivent en enfilade. Il y a du jaune, du vert, du bleu, du rouge. Et ces couleurs, elles rappellent celles des bateaux du port. Ce n'est pas un hasard. Autrefois, les pêcheurs se servaient du reste de la peinture qui avait permis de repeindre leurs bateaux pour rafraîchir la façade des cabanes. En passant à Fort Royer, il faut absolument s'arrêter goûter des huîtres chez Fifi et Nanou. C'est facile, c'est l'une des premières cabanes ouvertes quand on arrive sur le site. Ici, vous pourrez déguster une douzaine d'huîtres avec un petit verre de blanc d'Oléron. Je vous conseille de prendre les huîtres numéro 3, c'est le calibre du coquillage. Elle n'est ni trop grosse, ni trop petite, parfaite pour une petite faim. Vous verrez, elles sont affinées à l'eau claire, ce qui fait toute sa spécificité. Elle a un petit goût de noisette en bouche, ça reste très iodé, mais elles sont délicieuses. Avant de partir de Boyarville, si vous voulez vous baigner, je vous recommande d'aller à la plage des Saumonards. Vous verrez, il faut traverser la forêt des Saumonards et au bout de 10 minutes de marche, on franchit la dune et on sent une odeur de curry très particulière ici. C'est l'odeur des immortelles, ces petites fleurs jaunes qui consolident la dune. et on arrive à une plage de sable fin blanc qui paraît totalement sauvage. On est face au Fort Boyard, c'est magnifique. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré. On s'éloigne de la plage pour rentrer un peu plus dans les terres. On va tout de suite dans les marais salants. Ici, on est donc dans les marais salants, à Sauzelles, un quartier à Saint-Georges-d'Oléron. On est à 5 minutes en voiture de Boyardville. On emprunte un petit chemin sinueux et là, il y a un parking pour les visiteurs qui viennent faire des balades en paddle. On marche un peu sur l'herbe et on arrive sur un dédale de petits cours d'eau ou de grands bassins rectangulaires. Ce sont les marais salants, des réservoirs d'eau de mer créés par l'homme pour extraire le sel. C'est un immense espace vert à perte de vue. Il n'y a aucune habitation. Et c'est très silencieux ici. On n'entend que le bruit des oiseaux. En fait, le territoire d'Oléron est composé à 30% de marais salants. Et ces espaces sont préservés parce qu'ils sont fragiles. Il y a des animaux sauvages et des plantes rares ici. Et d'ailleurs, 84% du territoire sur l'île est protégé au titre de site classé. Pour découvrir ces marais, on vous emmène faire une balade en paddle, une grande planche qui ressemble un peu à une planche de surf. On a aussi une pagaie pour nous propulser dans l'eau. Pour venir, il faut prendre la route de la Nouette à Sauzelles. Alors je vous préviens, c'est un peu caché. Une fois que vous arrivez au centre équestre de Boyardville, vous verrez, c'est en lisière de forêt, il suffit de suivre les pancartes vertes où l'on peut lire « Salicorne ». C'est le nom de ces balades dans les marais salants qui allient sport et découverte de la nature environnante. Pour la balade en paddle, je vous conseille de venir en maillot de bain. Vous verrez, l'eau n'est pas profonde, mais vous serez plus à l'aise. Pensez aussi à prendre une casquette, des lunettes de soleil et de la crème solaire. Il y a toujours du vent dans les marais, mais c'est un peu traître, car on peut prendre des gros coups de soleil. J'adore les marais salants parce que je me sens seule au monde ici. On peut s'y perdre. Il n'y a rien, que de l'eau, de la verdure et des oiseaux. C'est vraiment reposant. On est loin de l'agitation touristique, surtout au moment estival où il y a beaucoup de monde à la plage. Ici, même en été, il n'y a personne.
Alors en fait, là on a derrière moi on a un marais salant qui est caractéristique des marais de l'île d'Oléron. Quand on dispose de beaucoup de place, on essaie d'avoir un marais salant d'un seul tenant sur une grande longueur, comme c'est le cas de celui-là. Celui-là il fait 300 mètres de long à peu près. Alors l'intérêt de faire un marais salant d'un seul tenant, c'est qu'on, en plus de profiter de l'ensoleillement, parce que ça c'est l'énergie nécessaire à produire du sel, puisqu'on obtient le sel par évaporation de l'eau, on profite aussi du vent. Le vent aussi contribue à l'évaporation de l'eau, comme le vent qui sort de votre sèche-cheveux.
Lui, c'est Francis Capmas, c'est notre guide nature. Il connaît les marais salants sur le bout des doigts. Je vous avais dit au début de l'épisode que l'or blanc d'Oléron a permis de nourrir l'Europe entière depuis le Moyen-Âge. Ça paraît fou, mais ce sont pourtant ces marais tranquilles et calmes qui ont fait la richesse de l'île durant des centaines d'années. À l'époque, le sel était le seul moyen de conserver la nourriture. Mais avec l'arrivée des frigos, la production de sel chute. Aujourd'hui, il y a une dizaine de sauniers qui tentent de faire redémarrer cette activité à Oléron. On monte sur le paddle. Attention, il faut un peu d'équilibre, mais rassurez-vous, Francis est là pour nous aider. Et de toute façon, l'eau n'est pas profonde. On avance un peu, on pagaie, et on arrive sur un point d'observation pour regarder les oiseaux de plus près. On laisse le paddle et on s'avance car on a la chance de voir un limicole couleur sable qui se nourrit dans les marais.
Alors, c'est un oiseau qui est comme un échassier, comme les grands échassiers, il a des pattes longues et fines pour marcher facilement ou dans la vase ou dans l'eau. Il a un bec long et fin pour attraper sa nourriture dans l'argile. Mais ce n'est pas un pêcheur. Il ne pêche pas comme, par exemple, le héron qui pêche à pied dans 20 cm d'eau, peut pêcher des poissons ou des crevettes. Eux, ils vont dans la vase chercher des vers, par exemple.
Si Si jamais vous avez une petite paire de jumelles, il faut les emporter avec vous dans le marais. Vous pourrez observer les différentes espèces avec plus de précision. On reprend les paddles, on pagaie et on arrive sur un cours d'eau dont les bordures sont touffues. Ça forme comme des petits buissons. Et c'est une des plantes les plus typiques ici.
On s'arrête ici alors parce qu'il y a un peu de salicorne. Parce que la salicorne est assez difficile à obtenir. La salicorne pousse aussi à l'état naturel, près de l'eau. De l'eau salée, puisque ça, c'est une plante halophile. Donc là, la salicorne et l'aubione, les deux plantes dont je vais vous parler, sont des plantes exclusivement halophiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les retrouver plus loin sur la bosse. C'est-à-dire que là où il n'y a plus d'eau salée, ça ne les intéresse pas. C'est vraiment une plante emblématique du marais, quoi. La salicorne, elle ne pousse pas au bord de la mer, quoi. C'est vraiment une plante qui aime bien le marais, parce qu'elle a besoin de cette argile, en fait.
Avant de repartir, je vous incite à aller chercher votre petit sachet de fleurs de sel d'Oléron. Pour goûter celui du marais de Sauzel qu'on vient de visiter, il faut aller à la boutique Passion du Sel à Saint-Pierre-d'Oléron. C'est à 15 minutes en voiture du marais. Cette fleur de sel, pour assaisonner une salade tomate mozza, ça fait vraiment la différence. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va au Marais aux oiseaux, à Dolus-d'Oléron.
Mais on n'est pas tout seul, il y a beaucoup d'oiseaux. Voilà. Donc il y a quelques oiseaux domestiques, exotiques, mais très très peu. L'essentiel, c'est des espèces européennes. C'est comme une sorte de volière à ciel ouvert. Donc ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent.
On est maintenant au Marais aux oiseaux à Dolus-d'Oléron avec notre guide ornithologue Loïc Mimo. On est à 15 minutes en voiture de Boyarville. C'est une réserve naturelle de 10 hectares au milieu d'un bois feuillu. Cette réserve, elle est située sur d'anciens marais salants. Donc ici, il y a encore plein de petits cours d'eau. On déambule et on croise des aigrettes. Ça ressemble à un héron avec ses longues pattes, mais elles sont toutes blanches. On entend le rapace nocturne, le petit duxcope. C'est un petit hibou couleur sable qui a un chant aigu très reconnaissable. Et il y a aussi des cigognes. En Charente-Maritime, il y a une grosse population de cigognes. Ce n'est pas réservé qu'à l'Alsace.
Il peut y avoir des fois des conflits entre certains oiseaux, une hiérarchie qui se fait en fonction des espèces. Et là, y a un petit conflit entre un cygne et une oie. Parce que l'oie, elle a son territoire, elle a son nid. Et le cygne, ça c'est un père qui a des petits. Donc il ne veut pas que l'oie se rapproche trop près.
Qui va gagner?
Ça devrait être le cygne, voilà. Il est plus costaud.
Ce que j'aime ici, c'est qu'on est en pleine nature. Et il y a des guides qui sont là pour nous apprendre à reconnaître telle ou telle espèce. C'est très arboré, donc même quand il fait chaud l'été, on trouve toujours un peu de fraîcheur ici. Je me sens privilégiée de pouvoir me balader près de ces oiseaux. Mais attention, ça reste des espèces sauvages. On n'est pas dans un zoo. Il ne faut pas s'approcher de trop près, et particulièrement au printemps, au moment de la nidification. Les oiseaux peuvent se montrer agressifs, et c'est normal, ils protègent leurs œufs. Il y a un oiseau impressionnant que j'ai découvert ici. C'est la spatule. C'est un grand échassier blanc avec un bec plat. C'est pour ça qu'on l'appelle la spatule. Et cet oiseau, normalement, il vit dans le bassin méditerranéen, dans des pays d'Afrique. Mais il est présent sur l'île depuis 2011. Avec le réchauffement climatique, les spatules remontent de plus en plus. Avant de repartir, il y a un endroit dans le Marais aux oiseaux qu'il faut absolument découvrir. C'est l'observatoire de la réserve. On monte à 9 mètres de hauteur et de là-haut, on a le plus beau point de vue du parc et on peut voir les oiseaux sauvages et les marais salants à perte de vue. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Vous écoutez ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Le Chat, le nouveau titre de l'aimant.
Un coup de cœur ici.
Que restera-t-il après ton départ? Un dernier sourire sur un quai de gare. Que restera-t-il après ton silence? Quelques souvenirs malgré la distance et toutes ces habitudes que l'on oubliera. Certains de mes pulls que tu garderas, mais qui prendra le chat? Du son de ta voix, où sera ma maison si ma maison c'est toi? Que restera-t-il quand viendra l'automne? Des photos de toi dans mon téléphone et un changement d'adresse, un fond de vodka et d'autres promesses qu'on ne tiendra pas. Et tu prendras le chat, et tu prendras le chat. Bien aimé, mais tu as pris le chat. Mais tu as pris le chat. On rêvait du même idéal. Un peu beau, un peu bancal. On s'est bien aimé, mais mal.
Ici, votre radio locale, toujours avec vous.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Les Landes, ça ressemble aux vacances. On a des plages immenses, on a des vagues géantes, on a des campings, des forêts de pins traversées par des kilomètres de pistes cyclables. Mais on a aussi et surtout une histoire, un patrimoine, des traditions et du foie gras, évidemment. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir. Je vous emmène à Saint-Sever, une petite ville de 5000 habitants qui résume à elle seule les Landes authentiques, celles de l'intérieur. Et à la fin de cet épisode, je vous révélerai le point commun entre Saint-Sever et le Vatican. Parce que oui, il y en a un. Je m'appelle Leïla Benjelloun. Je suis journaliste à Ici Gascogne et j'aime beaucoup Saint-Sever parce que chaque ruelle, chaque bâtisse raconte une histoire et parce qu'ici on sent les Landes vivre et respirer. Bienvenue dans Partir, Saint-Sever, cette ville qui résume les Landes. Notre point de départ, c'est la butte de Morlane sur les hauteurs de Saint-Sever. C'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Mont-de-Marsan et c'est à un peu plus d'une heure de la côte landaise en voiture. Là où tout a commencé. Là où les Celtes ont installé leur premier campement au 5e siècle, avant d'être imités par les Romains. Morlane, ça signifie Mont des Landes, parce qu'on est vraiment en hauteur. Imaginez une grande esplanade, le chant des oiseaux, un jardin public avec une allée centrale bordée d'arbres, au fond, la statue d'un général illustre, et derrière, un immense balcon de verdure. Il donne à voir la vallée de la Dour et la Chalosse, cette région fertile et vallonnée qui fait le lien entre la forêt et l'océan. Dans les Landes, Chaque village organise ses fêtes. 2, 3, 4 et même 5 jours pendant lesquels on se retrouve. On joue au qui, à la pétanque, on pêche et surtout on chante, on danse et on mange. On se régale de tapas, de canards, d'entrecôtes et de côtes à l'os avec un foulard noué autour du cou. À Saint-Sevé, il est noir et les festaires, ça veut dire les fêtards en gascon, le portent au mois de juin, autour de la Saint-Jean, c'est-à-dire autour du 24 juin. Pendant 5 jours, cette butte de Morlanne, d'ordinaire si calme, devient un lieu de fête avec marché gourmand, un grand concours de gastronomie, c'est un peu Top Chef version landaise, et des banquets géants. Si vous êtes libre à cette période-là, je vous conseille vraiment de venir découvrir les fêtes de Saint-Sevé. Et je vous promets que vous aurez envie d'y revenir tous les ans. Si la butte de Morlanne vit tout particulièrement pendant les fêtes, c'est parce qu'elle abrite aussi les arènes de Saint-Sevé. Quand on arrive sur la butte, on ne peut pas rater ces magnifiques arènes blanches et ovales. Leur grand porche blanc, encadré de 2 tourelles et la porte en bois rouge. On se croirait presque en Andalousie. Les arènes de Saint-Sevé ont été construites en 1932, ou plutôt reconstruites. Les premières étaient faites en bois. Et ça aussi, ça raconte les Landes, car Saint-Sevé est la première ville française à accueillir des jeux taurins. On retrouve les premières traces de ces courses de taureaux au Moyen-Âge, au 15e siècle. Ça se passait en bas, sur une grande place, la place du Tour du Sol. Au 19e siècle, les riverains lancent une pétition pour demander que ça s'arrête, car trop violent, trop dangereux. Mais le Landais est têtu et il décide de délocaliser les courses dans un lieu clos, sur cette butte. C'est comme ça que ces arènes sont nées. Elles vivent toujours aujourd'hui. Si l'envie vous en dit, vous pouvez donc assister à des corridas pendant les fêtes ou la semaine taurine en automne. Voir des courses landaises l'été, c'est pour tous les âges. Le reste du temps, elles sont fermées, on les admire donc de l'extérieur. Ah, au fait, je vous ai pas dit comment on arrive à Saint-Sevé. Eh bien, c'est un peu une particularité landaise, ça aussi. Les Landes sont très mal desservies par le train. Donc même si Saint-Sevé n'est qu'à un peu plus de 2 heures de Bordeaux, le plus pratique, c'est quand même de prendre la voiture. Et je vous disais donc que Saint-Sevé, c'est aussi un patrimoine et une histoire qui raconte les Landes. Pour le découvrir, on quitte les hauteurs pour rejoindre le cœur de ville par un passage discret. C'est à moins de 10 minutes à pied. Ici, on est donc au passage du Touron. C'est ce qu'il reste des remparts de Saint-Sevé. Vous pouvez entrer l'adresse dans votre GPS ou demander aux passants. C'est facile à trouver. On passe par une toute petite ruelle couverte et pavée qui débouche sur une placette. Ce passage, avec son arche de pierre, sa voûte couverte, ce sont en fait les anciennes portes de la ville. Elles datent du XIIe siècle et à l'époque, les marchands devaient payer un droit d'entrée aux moines et aux commerçants pour participer aux foires, aux marchés qui étaient organisés à Saint-Sevé. Quand j'ai envie de faire découvrir Saint-Sevé, je passe toujours par ce passage du Touron. Ses pavés, son architecture, son atmosphère qui nous replonge directement au Moyen-Âge. Je m'arrête sur la placette pour respirer l'odeur du jasmin qui fleurit au printemps et dont les fleurs blanches tombent en cascade et ornent les façades médiévales. Et je vous ai parlé juste avant de marché. Eh bien, celui de Saint-Sevé est formidable. C'est le samedi matin dans le centre et moi j'y vais toutes les semaines. On trouve des asperges et des fraises du coin au printemps, des abricots, des pêches, des tomates, des courgettes et tout le reste en été. Des produits d'ici, évidemment. Et puis on trouve aussi du très bon canard et du succulent poulet toute l'année, parce que Saint-Sevé, c'est aussi la capitale de la volaille. Et il n'y a pas que le marché de Saint-Sevé qui vaut le coup, il y a aussi des super restaurants. Mon conseil, c'est l'Art d'aimer. Le chef cuisine des produits locaux et de saison, c'est ouvert tous les midis, les vendredis et samedis soirs également. Le menu du jour est à 16 euros, c'est 11 euros pour le menu pitchoun, le menu enfant. Évidemment, il y a du canard de Chalosse et du poulet de Saint-Sevé à la carte. Notre guide pour partir à la découverte de Saint-Sevé, c'est Pauline Collier. Ça tombe bien, depuis 3 ans, c'est son métier. Mais ça fait 17 ans qu'elle est tombée amoureuse des Landes.
Ici, tous les petits villages ont leurs petites traditions. Voilà, la fête qui est la plus large, mais des petites comme la maillade au mois de mai, ou alors pour les anniversaires, là où tous les copains se réunissent pour faire un petit peu de décor sur un pin et le planter pour la personne qui est fêtée ce jour-là. La haie de Nadaou à Noël, où on a vraiment cette tradition très simple. On va faire profiter et fêter l'arrivée de Noël tous ensemble autour de ce feu qui est pratiqué encore dans beaucoup de petits villages.
Si on marche quelques minutes depuis le passage du Touron, on arrive au cœur de la ville sur la place principale, la place du Tour du Sol. Mais surtout, c'est ici que se dresse la pépite de Saint-Sevé. Une abbaye bénédictine et son église, son abbatiale, fondée en l'an 1000 et refaite au XIIe siècle par un abbé qui a la folie des grandeurs, l'abbé Grégoire de Montanet. Mais sa mégalomanie, je vous en reparlerai plus tard. L'abbaye est monumentale, mais pourtant discrète.
La porte de l'église, on la reconnaît assez facilement parce que c'est assez distinct avec le grand portail. Mais celle qui donne accès au cloître, elle est un peu plus subtile puisqu'elle est cachée entre différents commerces. Elle est vraiment intégrée à l'architecture urbaine. Donc c'est vrai que quand on passe cet petit escalier et qu'on monte dans le cloître, on est toujours extrêmement surpris de cette architecture à laquelle on ne s'attend pas.
Quand on entre dans l'abbatiale, on se sent tout petit. Elle vient d'être entièrement rénovée et ne possède que des particularités, des merveilles. Son orgue très rare, ses chapiteaux décors peints et qui chacun raconte une histoire. Il y en a même un où l'on peut voir des lions porter une cagoule. Mais mon conseil, c'est d'abord de vous attarder sur le cœur de l'église. Il y a une cachette que je vais vous révéler. Si on soulève la trappe située sur les marches en bois, à la droite du cœur, si on fait le droit, on découvre le sol d'origine, une mosaïque qui reprend le style d'un arbre de vie. Après être monté au clocher de l'église, après avoir visité le cloître de l'abbaye, on prend la direction du couvent des Jacobins. Et je vous conseille de vous arrêter en chemin devant la manufacture Krabos, du nom d'une famille très connue à Saint-Sevé. L'immense bâtiment est désaffecté, mais la ville est en train de le réhabiliter pour le faire revivre. En 1919, la famille Krabos s'installe dans cet ancien hôtel particulier et elle en fait une usine pour transformer la plume et le duvet de canard. En 1980, l'usine déménage en périphérie et deviendra Pyrénex. Vous savez, les fameuses doudounes. Ça y est, nous sommes au couvent des Jacobins. C'est dans sa cour que les principales manifestations culturelles, botaniques, gastronomiques sont organisées. Et c'est là aussi qu'on trouve un musée formidable qui raconte Saint-Sevé. Le musée du Cap de Gascogne. Il est ouvert d'avril à octobre. À l'intérieur, il y a une salle consacrée au Beatus, un autre trésor de Saint-Sevé. C'est un manuscrit enluminé fait par les moines copistes de l'abbaye de Saint-Sevé en 1060, à la demande du fameux abbé Grégoire de Montanet, celui qui a la folie des grandeurs. Il raconte l'Apocalypse selon saint Jean, avec des textes illustrés, des enluminures. C'est une sorte de BD, mais médiévale. Le manuscrit est tellement précieux, il est tellement unique, qu'il est conservé à Paris, à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France. Mais ici, on peut toujours admirer des copies et la version intégrale en numérique.
Celle qu'il ne faut pas louper, ça va être la carte du monde, la Mappa Mundi, qui nous montre un peu comment le monde était connu au XIIe siècle, donc c'est le monde chrétien. On a représenté Jérusalem, Constantinople, Rome. Et, petite anecdote, c'est que Saint-Sevé est également représenté, mais à la même taille que Rome. Ce qui montre encore une fois que l'abbé Grégoire de Montanet avait de très grandes ambitions pour son monastère. Ça a vraisemblablement fait grincer un petit peu des dents au point de vue du pape, puisque le pape a vu pas d'un très très bon œil qu'une abbaye se mette au même niveau que lui.
Je vous avais dit au début de l'épisode qu'il y avait un point commun entre Saint-Sevé et le Vatican. Eh bien, c'est cette carte du monde commandée par le grand abbé de Saint-Sevé. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On va continuer de sentir l'âme des Landes. On part direction la campagne, en tracteur ou presque.
Vous avez tous tous entendu parler de ganaderia. Vous savez ce que c'est? Ganaderia, c'est le terme qu'on emploie pour parler de l'élevage de vaches landaises. C'est avant tout une exploitation agricole, hein, avec la particularité voilà, d'élever des vaches de course landaise et de jeu d'arène.
On est maintenant à la ganaderia Maynus. C'est à Toulousette, hein, c'est à une dizaine de minutes de Saint-Sever. L'élevage organise des visites guidées tous les mercredis pendant l'été. On monte dans une charrette tirée par un tracteur, on peut s'asseoir, il y a des bancs en bois. Et Laurent Lalanne, le vacher, nous emmène à la rencontre des vaches de course landaise. Et à chaque fois, Laurent descend du tracteur, il appelle les vaches, il les nourrit et il répond à nos questions. Dans les Landes, la course landaise, c'est un peu comme le foot au Brésil. J'exagère juste un tout petit peu. C'est un sport dans lequel il y a une coursière, une vache qui court dans l'arène, retenue ou non par une corde que tient un cordier, des sauteurs qui doivent l'éviter en passant par-dessus. Il existe de nombreuses figures et il y a des écarteurs qui doivent faire un écart donc pour l'éviter, l'écarter. Une équipe s'appelle une quadrilla. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, la ganaderia Maynus fait des démonstrations durant tout l'été dans les arènes de Saint-Sever.
Tous les jeudis soirs à 21h, on fait une démonstration de course landaise et après une partie jeu d'arène avec la vache, le petit veau pour les enfants et les ânes aussi, la ganaderia, pour faire la course d'âne. Une course landaise, c'est 13 vaches qui sont affrontées. Là, on fait une demi-course, c'est-à-dire on affronte 6 vaches.
Allez, je vous donne un dernier conseil. Avant de quitter Saint-Sever, n'oubliez pas de déguster un pastis. Rien à voir avec la boisson anisée, c'est un gâteau typique d'ici. Moi, je vous conseille le pastis Larat à Orissa, un petit village à 10 minutes de Saint-Sever. La famille se transmet la recette de génération en génération et le gâteau cuit dans le four à bois de la ferme. Oui, car c'est une boulangerie à la ferme avec plein de produits délicieux. Mais ça, vous les dégusterez quand vous viendrez. Vous venez d'écouter Partir, un podcast ICI, imaginé à ICI Gascogne. Mixage Bruno Lutz, production Clémence Olivier, studio de création ICI. Pour écouter d'autres épisodes, il suffit de vous abonner à Partir. On est disponible notamment sur l'application ICI et la plateforme Radio France. À très bientôt.
ICI.
Son bel avenir, la copie du calife. Dieu que cette fille a l'air triste, amoureuse d'un égoïste, la copie du calife. Elle fout toute sa vie en l'air, et toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit. Le soir entre ses draps roses, elle passe sa vie à l'attendre, pour un mot, pour un geste tendre, la copie du canif. Devant l'hôtel, dans les coulisses, elle rêve de la vie d'artiste, la copie du canif. Elle le suivra jusqu'en enfer, et même l'enfer c'est pas grand chose. Sur terre, et elle y pense dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle aime, elle adore, plus que tout elle aime, c'est beau comme elle aime. Elle aime, elle adore, c'est fou comme elle aime, c'est beau comme elle aime. Sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs, la copie du pianiste.
resté là sans rien dire, pendant que lui joue ses délires, la copie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier, en rêvant qu'il va l'emmener, passer le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe, la copie du pianiste. Mais Dieu, que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste, la copie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air, mais toute sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire, à part rêver seule dans son lit, le soir entre ses draps roses. Elle est, elle est là, plus que tout elle est, c'est beau comme elle est. Elle est, elle est là, c'est fou comme elle est, c'est beau comme elle est.
Les conseils, les bons plans, à tout moment.
On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir.
Partir en week-end en France.
À la mer ou à la montagne.
Et surtout avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti.
Saint-Étienne, c'est pour beaucoup les Verts. L'AS Saint-Étienne, une équipe qui a fait vibrer la France entière dans les années 70. Vous avez aussi peut-être l'image d'une ville de mines, noire, industrielle, un peu triste. Mais moi, je vais vous donner envie de découvrir cette ville autrement. Je vais vous prouver que Saint-Étienne, comme on l'appelle ici, c'est aussi une ville verte, avec la chance d'avoir une nature incroyable. Des montagnes, un fleuve juste à sa porte. Et à la fin de cet épisode, vous saurez quel exploit s'est produit ici dans les années 60, et je ne parle pas de foot. Je m'appelle Olivier Rocher, je suis animateur à Ici Saint-Étienne-Loire, et j'aime Saint-Étienne parce que c'est une ville facile à vivre. Quand je m'y suis installé il y a 10 ans, je me suis très vite senti chez moi. En centre-ville, il y a des gens de toutes classes, de toutes les origines qui se côtoient. Puis j'adore l'idée qu'en quelques minutes, on puisse se rendre à la campagne sur les hauteurs du Pilat, la montagne qui borde Saint-Étienne au sud, ou alors au bord de la Loire, en plein cœur de ses gorges, un de mes lieux favoris. Bienvenue dans Partir, Saint-Étienne, quand la nature reprend ses droits. Notre point de départ, c'est le site du Puy-Couriau, à une grosse dizaine de minutes à pied de l'hôtel de ville de Saint-Étienne. C'est facile, c'est tout droit. Le Puy-Couriau, c'est le symbole d'une époque, quand Saint-Étienne vivait de ses mines de charbon entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e. Aujourd'hui, il ne reste de cette période qu'un ensemble de bâtiments en briques rouges qui abritent le musée de la mine, puis un chevalement. C'est un genre d'échafaudage construit sur un puits de mine. C'est le seul encore debout à Saint-Étienne. Jusqu'à sa fermeture en 1973, les mineurs pouvaient descendre jusqu'à 700 mètres de profondeur et remonter 900 000 tonnes de charbon par an. Maintenant, ce chevalement, c'est un emblème pour les Stéphanois. Le jour, il a cet aspect brut qui nous rappelle que des milliers d'hommes, de femmes, de jeunes ont travaillé et parfois souffert ici. La nuit, il est illuminé et il devient un repère dans la ville, comme la Tour Eiffel. Ou presque. Tant que vous êtes ici, je vous recommande d'aller faire un tour à l'intérieur de ce musée de la mine. Ce musée, il a été créé en 1991 par des anciens mineurs et des passionnés. Ils se sont battus pour ça. On y trouve des salles d'exposition immersives, une galerie de mines reconstituée, et c'est une bonne façon de comprendre cette ville et son histoire. Derrière le Puy-Couriau et le musée de la mine, vous ne pouvez pas les louper, on aperçoit comme deux collines qui surplombent la ville. Elles sont recouvertes d'arbres, sauf sur le sommet. Ce sont des crassiers. Alors oui, le mot n'est pas très beau, ce que dans le nord de la France on appelle des terrils. Ces crassiers, ce sont des tas géants de déchets de la mine. Dans les années 30, quand les galeries étaient creusées, on évacuait la terre à quelques mètres de là, et au fur et à mesure, la terre et les déchets se sont transformés en une colline noire de plus de 150 mètres, et puis une deuxième dans les années 40. Aujourd'hui, les crassiers sont en quelque sorte encore vivants. Les matériaux qui les forment réagissent et produisent de la chaleur. C'est pour ça que l'hiver, même quand il neige, les sommets, eux, sont rarement blanchis. Pour les stabiliser, des arbres ont été plantés sur leurs flancs. Et ce qui est fou, c'est qu'ils se sont tellement plu ici, ces arbres, qu'ils recouvrent maintenant les crassiers en grande partie. Attention quand même, contrairement au terril du Nord, il est interdit de monter sur les crassiers, justement parce qu'ils sont instables. C'est donc dangereux, même si chaque année, quelques Stéphanois s'aventurent pour faire passer des messages politiques, artistiques, depuis le crassier ou pour observer le paysage. Et si vous voulez une vue sur Saint-Étienne, montez plutôt sur la colline du Guizet, au sud de la ville. C'est plus sûr et la perspective est tout aussi sympa. J'allais oublier. Si vous voulez faire une pause pique-nique, je vous recommande de vous installer dans le parc du musée de la mine. C'est juste à côté, avec ses arbres, ses pelouses, ses jeux d'eau, c'est un endroit parfaitement adapté. Et l'été, j'adore aussi y aller pour faire une pétanque entre amis ou pour faire la fête. Du mercredi au dimanche, des concerts sont organisés gratuitement, des spectacles aussi, et l'ambiance est super conviviale, ça vaut vraiment le coup de s'y arrêter. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir un endroit incroyable, qui reverdit tout près de Saint-Étienne. On y va tout de suite. On est à 15 minutes en voiture de Saint-Étienne à Saint-Victor-sur-Loire. Et c'est un changement de décor complet. Saint-Victor-sur-Loire, c'est un bourg avec ses ruelles pavées, ses maisons en pierre, il y a même un château médiéval et une église romane. Plus original encore, on y trouve aussi une base nautique avec une plage et un port de plaisance. Parce que le village est situé en bord de Loire, et plus précisément au port de la réserve naturelle régionale des Gorges de la Loire. Ici, on a commencé à protéger la nature dès la fin des années 80, un peu après la fermeture des mines. Tant que j'y pense, le plus simple pour aller à Saint-Victor-sur-Loire, c'est de prendre sa voiture. Mais il existe aussi des bus, le M2 puis le 109, qui permettent de rejoindre ce bourg en 40 minutes. Chaque été, la ligne 36 relie aussi le centre-ville de Saint-Étienne à la base nautique. Sinon, il y a toujours le vélo. Depuis quelques années, des pistes cyclables sont aménagées tout au long de la route. Ce n'est pas la balade la plus bucolique, mais ça le mérite d'être pratique. Avant que j'oublie, à Saint-Victor, il y a donc une plage, surveillée tout l'été, mais il n'est pas toujours possible de se baigner. Depuis quelques années, avec le réchauffement climatique, les bactéries prolifèrent et polluent certains jours l'eau de la Loire. Et je préfère vous prévenir, c'est de plus en plus fréquent. L'été, l'eau est contrôlée toutes les semaines, alors mieux vaut se renseigner auprès de la base nautique avant d'y plonger. En revanche, pour faire bronzette et pique-niquer, pas de souci, c'est sans danger. On s'éloigne maintenant un peu de Saint-Victor-sur-Loire pour rejoindre l'un de mes endroits préférés à l'intérieur de cette réserve naturelle des Gorges de la Loire. Ce n'est pas loin, à 10 minutes de là en voiture, moins rapide mais vraiment agréable, 45 minutes à pied par un chemin qui grimpe derrière le port de Plaisance jusqu'à un petit hameau qui s'appelle Condamine. On arrive d'abord devant un grand bâtiment en bois, c'est la maison de la réserve naturelle. On suit le sentier qui bifurque à gauche pendant encore 10 minutes. Et puis là, on tombe d'un seul coup sur un petit endroit à découvert. D'ici, le paysage est dingue. On domine vraiment les gorges de la Loire et cette nature sauvage. En contrebas, on voit la Loire serpenter une dernière fois avant d'arriver jusqu'à un barrage. On aperçoit une île, l'île de Grandjean, avec son château classé. Et puis en face, en bord de Loire, on devine également une petite église et quelques maisons en pierre d'un charme fou. Pendant des années, une petite communauté monastique, les Camaldules, vivait ici. Et puis regardez tout en haut. Un château domine ses alentours, c'est le château des Salois. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors moi, je vais à Condamine plusieurs fois par an. Je m'y sens tellement bien, le paysage est vraiment beau, vraiment apaisant, et puis il y a un côté romantique aussi. Et parfois, quand j'y vais, j'entends des oiseaux chanter, j'entends un bateau naviguer en contrebas. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, je vous conseille de faire un tour en bateau électrique sur la Loire. La balade est vraiment intéressante et ça permet de découvrir les gorges autrement. Alain Laurendon est l'ancien directeur du syndicat mixte des Gorges de la Loire. Son travail, c'était de protéger et valoriser le territoire. C'est aussi un homme du coin. Et depuis toujours, il est amoureux de cette réserve naturelle.
J'aime bien le château. J'aime bien aussi un piton là-bas, qui est pas mal. Mais c'est celui-ci pour moi le plus beau, là. Le soleil couchant. S'il faut venir le soir, l'été se couche là-bas, derrière le château. C'est vraiment la nature sauvage, quoi.
J'ai encore un conseil pour vous. Si vous avez envie de vous balader, de randonner, les Gorges de la Loire sont un super terrain de jeu. Il existe plusieurs sentiers balisés, souvent accessibles en famille, avec pour la plupart des niveaux faciles, voire très faciles. Je vous recommande de télécharger les rando-fiches pour les sentiers pédagogiques que l'on trouve sur l'application Marando ou sur le site de la réserve des Gorges de la Loire. C'est très pratique, ça permet d'en savoir plus sur la faune et la flore que l'on peut croiser sur le chemin. À un quart d'heure de voiture de Condamine, l'autre endroit où je veux vous emmener, c'est le barrage de Grandjean. Parce que c'est un endroit parfait pour comprendre comment la nature s'impose ici. Ce barrage a été construit à la fin des années 50. Et ça a été une révolution pour les Gorges de la Loire. Le niveau de l'eau est monté d'un coup et des villages ont été carrément engloutis. La ligne de train qui passait par là pour transporter le charbon, elle a aussi disparu. D'ailleurs, c'est marrant, parfois quand l'eau baisse, on peut voir ressurgir l'entrée d'un ancien tunnel. Ce qui est fou aussi, c'est que ce barrage a transformé les écosystèmes des gorges. En fait, comme le débit de la Loire a ralenti, certaines espèces de poissons ont disparu, comme le saumon. Mais beaucoup d'autres sont apparus, comme les gardons ou les carpes. Et au total, près de 900 espèces de plantes, 130 espèces d'oiseaux, 1500 espèces d'insectes et une cinquantaine de mammifères se sont installés ici. Au milieu des années 60, c'est aussi un animal étonnant qui est apparu ici. Vous vous souvenez, en début d'épisode, je vous disais qu'un exploit s'était produit ici dans les gorges. Eh bien, c'est celui du funambule Henri Réchatin de son vrai nom. En 1965, il a traversé la Loire sur un fil de 1800 mètres tout près du barrage. Et pour l'anecdote, à l'époque, c'est Michel Drucker qui a couvert l'événement.
Il est parti de ce lieu, sur le plateau, là, du côté, et a fait une traversée à pied, d'abord, a tiré un câble entre les deux berges, et ensuite, en moto, avec sa femme qui était suspendue à la moto dans le vide. Il avait une perche de 12 mètres de côté, il tenait équilibré et tout, et il est allé en face.
Tant que vous êtes ici, j'ai une autre recommandation. Comme c'est un endroit où la nature est protégée, ce n'est pas évident de dormir proche des gorges. Mais il existe quand même de jolies chambres d'hôtes dans des communes à proximité, Unieux, Chambles ou encore Saint-Victor, comme cette sublime maison en pierre avec piscine. Elle est appelée le Plateau de la Danse et elle se trouve au sud du bourg. Et si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée pour vous. On reste dans les gorges, mais on bascule sur la rive gauche pour voir la nature autrement et pour visiter un château qui y a bien trouvé sa place.
Je venais quand j'étais petit aussi, parce que il y a le château, donc le château c'est un truc qui est préservé, on a une belle vue, tout le monde, c'est un passage obligé quand on habite là, de au moins venir le visiter une fois dans sa vie.
Nous sommes maintenant au château des Salois. C'est un petit château qui date du Moyen-Âge, et avec ses quatre tours, il domine la Loire. Alors c'est vrai, il n'a pas l'envergure d'un Chambord ou d'un Chenonceau, mais il compte quand même parmi les premiers châteaux de la Loire, en tout cas l'un des plus en amont, près de la source du fleuve. J'adore venir me promener ici. C'est en quelque sorte ma balade du dimanche, comme celle de beaucoup de Stéphanois d'ailleurs. On n'y est jamais vraiment seul, mais ça reste un endroit toujours tranquille et c'est gratuit, ce qui ne gâche rien. Ce que j'aime surtout, c'est grimper dans l'une des tours, celle à gauche de l'entrée, car de là-haut, on a une vue à 360 degrés. Alors bien sûr, les gorges, le barrage, la réserve naturelle, vous commencez à connaître. Et puis si on pousse un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on est cerné par trois massifs de moyenne montagne. Les monts du Forêt, les monts du Lyonnais et le parc régional du Pilat. Et puis, il y a des panneaux explicatifs installés à l'intérieur et à l'extérieur du château. Ça permet d'en savoir plus sur l'histoire du château, mais aussi sur le fonctionnement du barrage et sur la façon dont la nature est protégée. Et pour la petite histoire, si vous tournez le dos au château, vous verrez sur votre droite une colline recouverte d'un petit bois. En fait, ce n'est pas qu'une colline. Durant l'Antiquité, c'était une ville romaine fortifiée. D'ailleurs, on y a retrouvé des restes d'amphores qui datent de moins 170 avant Jésus-Christ. Avant de quitter Saint-Étienne et pour reprendre des forces après ces balades en pleine nature, j'ai un dernier conseil. N'oubliez pas de goûter à une praluline. C'est une brioche à la praline typique de la région que l'on trouve chez le chocolatier Pralu, rue Michelet à Saint-Étienne. Et si vous voulez ramener un produit local, je vous recommande aussi les bières de la brasserie stéphanoise. On en trouve dans les caves du centre-ville. Il y a un choix très large et elles sont toutes délicieuses, même si moi j'ai un faible pour la Chapeux, une blonde pas trop forte au gingembre. Avec modération bien sûr. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez.
Ici.
Ici.
Vous écoutez Ici.
Ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Tout l'heure du monde, le nouveau titre de Jérémy Frérot.
Un coup de cœur ici.
Je bomberai pas le torse pour être plus fort. Je crierai pas pour que l'on soit d'accord. Je vais pas soulever les trophées, jouer au cador. J'irai pas chercher la gloire ni la médaille d'or.
Je m'en fous d'être le chef, je m'en fous de faire la prêche, je m'en fous d'être plus rapide, je m'en fous d'être plus solide, je m'en fous d'être le premier. Je veux être celui sur qui on peut compter. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur. C'est comme la rivière qui serpente au gré des vallées. Je suis liquide, avec mes fils on fait des ricochets. Sur l'Atlantique, en équipe, on sèche les cours de la vie et les remous du cœur. On se paye un tour gratuit. Tant pis pour les chiffres, tant pis pour la frime. Tant pis pour la fame, tant pis pour le fric. Tant pis pour la légende, tant pis pour ce que vont penser les gens. Perdu dans ce décor, tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur. Les records, les scores, la gloire, contre un monde sans vainqueur. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus solide. Quand le jour s'endort dans mon lit, j'ai peur de mourir. Je suis pas le plus fort, je suis pas le plus rapide. Je m'en fous d'être le premier, je veux juste être celui sur qui tu peux compter. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur. Tout l'or du monde, contre un monde sans vainqueur, sans vainqueur.